Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et je vous propose ce matin le premier volet d'une série d'émissions consacrée à la paternité. Devenir père, comment se préparer à ce moment extraordinaire qui change la vie pour toujours? Moment joyeux et angoissant qui plonge le futur papa dans un océan de questionnements à la fois pratiques et existentiels, avec en ligne de mire cette interrogation: serais-je à la hauteur? À partir de quel moment devient-on père? À la première échographie, lorsque le ventre de la mère s'arrondit? À la naissance, quelques mois après? Comment bien vivre le cheminement vers la paternité au cours des 9 premiers mois de la grossesse? Comment bien vivre psychologiquement ce changement de statut? Comment se faire une place entre la mère et le nouveau-né? Quel rôle peuvent jouer les sages-femmes tout au long de ce processus? On s'intéresse ce matin à la période de la grossesse jusqu'aux toutes premières heures à 3. Racontez-nous votre expérience de nouveau père. Et si vous l'avez été il y a longtemps, n'hésitez pas à partager votre expérience. Du côté des mères, quel regard portez-vous sur les premiers pas des futurs papas? Questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Pour vous répondre, le journaliste Lionel Paillès, l'homme sage-femme Benoît Le Goédec et la psychiatre Aurélia Schneider. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
On se retrouve tout à l'heure vers 10h35. Quel est le menu de votre ordonnance philosophique?
Eh bien une distinction ce matin entre la paternité et le patriarcat.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébé.
Bonjour Lionel Paillès.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Bonjour Benoît Le Goédec.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme depuis une vingtaine d'années. Vous tenez à cette appellation. On dit quoi? Homme, sage-femme, sage-femme. Il y a aussi le terme maïeuticien. Qu'est-ce que vous préférez, vous?
Moi, je me présente toujours comme sage-femme.
Parfait. Et vous publiez ensemble chez First, Papa débutant, tout savoir pour vous préparer sereinement à l'arrivée de bébé. Bonjour Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et vous êtes l'auteur de La charge mentale des femmes et celle des hommes. C'est écrit en tout petit sur la couverture de votre livre.
C'est bien écrit quand même.
Benoît Le Goédec, à partir de quel moment devient-on père? À l'annonce de la grossesse, au moment de la première échographie, au moment de la naissance, le jour de la sortie de la maternité, plusieurs jours, voire plusieurs mois après la naissance de son premier enfant?
Ça dépend des hommes, je dirais, puisque quand j'interroge les hommes avec la même question dans les groupes que j'anime, les réponses, elles sont très variables. Ça dépend de l'attente qu'ils en ont eue. Il y en a qui me disent dès le test de grossesse, dès l'annonce, parce que c'était un projet que j'avais depuis enfant, pratiquement. D'autres, c'est l'échographie quand il y a une image qui matérialise un peu. Mais quand même, tous disent que c'est pas tout à fait. Et que le tout à fait, c'est les trois tours qu'ils font sur eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent le bébé dans les yeux et dans les bras après la naissance.
Devenir père, c'est un parcours initiatique que l'on a longtemps sous-estimé. Pendant des siècles, les pères ont été tenus éloignés de l'accouchement. Il a fallu du temps pour accepter le père dans la salle de travail.
Dans la salle de travail, oui, mais on voyait les pères présents sur d'autres rites à l'extérieur qui accompagnaient ou qui suspendaient le temps quand la femme accouchait. Dans les salles de naissance, parce que il y avait quand même quelque chose de très féminin, le corps de la femme, les sages-femmes, enfin c'était difficile. Maintenant, ils sont accueillis, mais accompagnés, pas forcément pour autant. Hein. Ouvrir les portes et accompagner l'homme, c'est quand même il y a une nuance en fait.
Pourquoi?
Parce que ils sont vus. Pas comme un des acteurs de la naissance, mais beaucoup comme le compagnon de la femme et son assistant, si je puis dire. Et puis après, beaucoup de sages-femmes ont du mal à aller vers l'homme. Je crois qu'il reste beaucoup, alors que moi qui suis un homme sage-femme, je peux les transgresser avec les femmes, beaucoup de problématiques de genre et de relations sexuées envers l'homme. Et on franchit pas les vers qui fait que l'homme se sent lui-même pas à l'aise et de ce fait il y a une mise en retrait assez facile.
Pourquoi la présence du père est-elle fondamentale lors de l'accouchement?
Parce qu'il est la sécurité affective la plus grande pour la femme et que si la femme n'a pas ces sentiments de sécurité et d'enveloppe, il est l'enceinte autour de l'enceinte, et bien elle ne peut pas être à l'écoute d'elle-même et laisser faire. L'accouchement, c'est un esprit du non-faire pour la femme. Il faut accompagner les choses, être à l'écoute de ce qui émane d'elle. C'est très difficile s'il n'y a pas, dans un environnement qu'elle connaît pas, une sécurité affective. C'est ce qu'on appelle aimer.
L'écrasante majorité des femmes qui accouchent ne comprendraient pas que le père ne soit pas là, sauf évidemment cas de force majeure, ou s'il s'agit d'une mère seule, bien évidemment.
Oui, mais en même temps, parce qu'elles savent que sans lui, elles sont seules. Puisqu'on n'est pas en France dans un système où il y a du one-to-one care, une femme, une sage-femme en salle de naissance. L'homme, il a la difficulté aussi, lui, d'exprimer profondément s'il veut l'être ou pas, et de quelle façon il veut l'être, parce qu'il sait que la femme l'attend. Et pour autant, moi qui accompagnais beaucoup de naissances à la maison, donc dans un environnement tout à fait différent, l'homme est là, mais d'une toute autre manière en fait. Et elle ne le demande pas autant.
Pourquoi les hommes ont-ils besoin d'un accompagnement spécifique tout au long de la grossesse ?
Ben parce que c'est un changement historique, filial, symbolique, et que pour accueillir l'enfant, ben il faut avoir fait un chemin aussi vers soi. Après, ils le vivent aussi dans l'intériorité. La femme, dès que l'utérus devient visible, déjà quelque chose l'est pour ce qu'elle vit intérieurement, mais aussi elle change de statut social très vite. Elle est devenue femme enceinte, donc déjà mère quelque part. L'homme, rien n'est visible, il vit tout seul. Et il a une histoire aussi singulière qui ne rend pas forcément facile cela. Et puis après, il y a l'accompagnement du nouveau couple qui va se mettre en place, c'est-à-dire le couple parental, mais en même temps à préserver la conjugalité. Dernière chose, c'est qu'on sait que 40% des violences conjugales démarrent dans le temps de la grossesse et du postnatal, et que le premier criminel dans le syndrome du bébé secoué est le père. Donc il y a un accompagnement de prévention sur les différents types de violences à faire avec l'homme.
Lionel Paillès, au moment de la naissance de votre fille Yaël, vous êtes passé de la légèreté à la gravité. 9 mois de grossesse relativement insouciant, puis une autre histoire, une fois dans le taxi qui vous ramène chez vous avec votre fille et votre compagne.
Oui, c'est vrai que c'était... Je dois dire que pour mon premier enfant, j'en ai deux. Mon premier enfant, ça s'est passé finalement relativement sereinement et j'avais pas d'angoisse particulière. En fait, les angoisses sont venues sur des postures un peu concrètes, enfin des choses que j'imaginais qu'on attendait de moi. Vous citiez le taxi, j'ai pas mon permis de conduire. Eh ben, c'était vraiment fondamental pour moi. Je me disais comment je vais pouvoir accompagner ma femme à la maternité. Et c'était une vraie angoisse. Hein. Quand je vous dis ça, c'était pas du tout anecdotique. Donc voilà, déjà je m'étais préparé. Je m'étais dit ça, on attend ça du père. Donc toi, tu conduis pas. Donc tu seras pas un père à la hauteur. Donc voilà le genre de choses. Et c'est vraiment cette réflexion qui a donné naissance même au livre. C'est que je me suis dit en fait il y a beaucoup de problématiques qu'on n'imagine pas celles des pères et qui peuvent finalement nouer un début de relation. C'est-à-dire que le père qui se sent pas à sa place tout de suite, eh ben il pourra la trouver plus tard. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile ensuite de se faire sa propre place.
Est-ce qu'on sous-estime l'état émotionnel, l'angoisse des futurs et tout nouveau père, Benoît Le Goédec ?
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, on imagine, je crois qu'il y a quelque chose sur le regard de l'homme en général, mais on imagine on n'imagine pas le bouleversement que ça peut être pour lui. Comme s'il était à distance et que ça viendrait que petit à petit ou alors que en postnatal. Et encore, on n'imagine pas non plus les répercussions postnatales. On se penche que depuis très peu sur les épisodes dépressifs des pères, par exemple.
Et il est naturel de passer par des moments d'épuisement psychique, de découragement, des moments de panique et puis d'euphorie, évidemment. Ce sont les montagnes russes émotionnelles.
Ben oui, parce que c'est fait partie des 4 grandes émotions qu'on passe de l'un à l'autre et qui ne connaît pas l'angoisse, ne connaît pas la joie. Donc à un moment, ces angoisses qui montent beaucoup, beaucoup le jour de l'accouchement, on n'a jamais vu des hommes aussi tendus basculer dans cet éclat-là lorsqu'ils accueillent l'enfant.
Aurélie Schneider.
Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites là-dessus. J'ai un ami qui m'avait raconté qu'en fait, il avait cru, au moment de l'accouchement, perdre sa femme et sa fille. Et il était, mais en fait, il a cru parce qu'il y a eu une urgence, il y a eu une césarienne, en fait. Et à ce moment-là, alors que pour nous, médecins, la césarienne, c'est, bon, on doit la faire, et puis ça va s'accélérer un peu, mais il y a quand même un contrôle, une maîtrise. Lui, il était, mais dévasté, persuadé que tout était terminé, quoi. Il n'y a aucun contrôle, alors que la femme, elle est quand même dans l'action, et que elle est prise en charge, alors qu'à ce moment-là, le père ne l'est pas. On l'évacue, même, j'ai envie de dire, et on va vers l'urgence. Donc c'est extrêmement déstabilisant, en effet.
On sous-estime, Aurélia Schneider, cet état émotionnel, ces angoisses du futur père ou du tout nouveau père ?
Alors, je pense qu'on les sous-estime À plus d'un titre, je suis très touchée par ce que vous dites sur l'histoire des violences conjugales et en effet la nécessité du soutien. Et je pense qu'on les sous-estime d'autant plus que même chez les mères, il y a une difficulté à devenir mère. Alors moi, je vais être biaisée dans ce que je vais dire, parce que moi j'ai une consultation, donc je ne vois que des femmes qui ont des soucis. Enfin, ce sont des femmes qui sont des anxieuses, donc en fait, on va dire, beaucoup d'entre nous le sont. Mais pour certaines, et pas seulement un petit nombre, il y en a énormément qui sont en difficulté pour faire connaissance avec l'enfant. Donc à plus forte raison, le père.
D'autant que le père, on lui donne peu d'espace en maternité, dans la prénaissance. Il y a encore très peu de maternité où l'homme peut rester le temps du séjour s'il en a envie. Donc en fait, on lui reproche de ne pas être là, on lui demande de l'être, et en même temps on lui ouvre peu les portes en préparation de la naissance, en post-natal. Et donc c'est assez difficile de trouver des lieux. La femme, elle a ses ponctuations de consultation obligatoires, elle a des rencontres qui lui permettent de parler de ça. Et puis après, il a une difficulté, lui, à venir vers les accompagnants de la naissance. Il va pas aller vers le thérapeute, même s'il en avait besoin, parce qu'il se dit ça va s'arranger, c'est un peu normal. Et il va pas aller vers la sage-femme parce qu'elle est très liée dans l'histoire aux femmes, en fait.
Vous semblez acquiescer, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est vrai qu'il faut trouver sa place. Moi, j'ai vécu ça deux fois aussi, avec une grossesse gémellaire pour la deuxième fois. Donc, ça fait 3 enfants au total.
Merci.
Voilà. Mais non, c'est vrai que c'est difficile. Et il y a quelque chose aussi dont il faut dire un tout petit mot, c'est que ça se passe quand même globalement beaucoup dans une maternité, c'est dans un hôpital, et que il y a quand même aussi la grosse machine de l'hôpital, c'est-à-dire le fait que la chambre, le bracelet, etc., tout ça est au nom en fait de la femme qui est un peu considérée comme une, par défaut, comme une patiente. Et nous, on se retrouve un peu comme une forme d'accompagnant. Alors on porte le sac où il y a les affaires, etc. Et en fait, on ne sait pas trop où se mettre. On a l'impression d'encombrer parfois, parce que l'équipe médicale s'adresse aussi systématiquement, et c'est normal, enfin, en un sens, à la patiente. Enfin, moi, j'ai eu ce qui m'a fait cet effet d'un peu d'exclusion, c'est d'être dans un univers entre guillemets médicalisé. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des maternités qui travaillent beaucoup sur le fait de démédicaliser un petit peu, mais c'est difficile de s'émanciper quand même de cet environnement médical.
Le Benoît parlait des groupes de parole pour les pères, par exemple. Ils sont généralement très peu mentionnés dans les maternités, même les maternités qui historiquement en animent. Donc c'est difficile de trouver un groupe de parole, ou en tout cas, il faut vraiment le vouloir. Donc c'est vrai qu'on n'est pas fléché forcément quand on arrive dans une maternité. Et moi, souvent, une des discussions qu'on avait eues avec Benoît quand on rédigeait ce livre, c'était est-ce qu'on a finalement besoin, est-ce qu'on a la possibilité de visiter la salle de naissance? Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on fantasme beaucoup quand on est un futur papa. Et effectivement, même si vous en faites la demande, Benoît m'avait dit, tu as le droit de visiter une salle de naissance. Mais si vous en faites la demande dans une maternité classique, c'est rare qu'on vous autorise à le faire. Donc c'est vrai que c'est pas encore tout à fait au point tout ça.
Par rapport à ce que vous dites, je devais faire une conférence un jour et on m'avait demandé de partir de cas cliniques. Et j'ai interrogé 4 hommes dans 4 histoires de naissance difficiles. Et le seul point commun que j'ai trouvé, c'est le sentiment de solitude. Et en salle de naissance, en fait. C'est-à-dire une présence, mais en même temps assister dans son angoisse sans comprendre. Et dès qu'il y a une interférence à la physiologie, effectivement, ça devient difficile.
C'est aussi la question de la place. La place. Quelle place on occupe, vous dites. Vous parlez de la place dans un hôpital, la place dans une salle d'accouchement, la place d'un futur père dans la vie de sa femme. Oui. C'est très questionnant.
Allez, nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacant et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1970. Cette année-là naissait le réalisateur Paul Thomas Anderson et disparaissait Janis Joplin. Belle journée à l'écoute de France Inter.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm
when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Le sublime Father and Son de Cat Stevens.
Tu te pleures. Tu la prends. Laisse-la pleurer, elle cherche son sommeil, elle va s'arrêter dans deux minutes.
Grand bien vous fasse.
Bah, écoute tes conseils, hein. Je sais bien que tu la laisses broyer des heures, mais moi je peux pas. Voilà.
Sur France Inter.
Poutou, 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 poutou.
10h24. Devenir père, c'est notre thème ce matin. Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000.
Je vais être papa.
Je te présente Gloria. C'est ta fille. Je sais, c'est fou.
Mais non, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. C'est pas fou parce qu'en fait, non. Tu vois, parce que c'est malencontreux, mais non. Je suis désolé. Merci beaucoup.
T'es enceinte ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que c'est formidable.
À Paris, notre futur papa Aurélien ne s'est pas calmé sur les pâtisseries.
Je suis pathétique. Je suis pathétique. Je mange. C'est plus boire de bière, un peu dur. On va aller te voir dans la télé du médecin. C'est beau.
Oh.
C'est incroyablement émouvant. Ça me fait rire, ça m'émeut. C'est la dernière fois, donc c'est. Voilà, il y a un petit pincement. Mais la prochaine fois que je le verrai, c'est dans mes bras.
Ah.
Qu'est-ce que je fais ?
Tais-toi.
Je te laisse.
Non, regarde, attends.
Viens.
Je
fais son café, toi.
Antoine ! Antoine ! Appelle Antoine ! Un garçon !
Ah, il est formidable, cet enfant. Il est vraiment formidable. J'étais sûr qu'il serait formidable, mais il est encore plus formidable. Ce sera Victor Hugo ou rien.
Medley signé Claire Destacan, Benoît Le Goédec, Lionel Paillès, vous êtes les auteurs de Papa débutant, Rania Schneider, l'autrice de La charge mentale des femmes et celle des hommes également. Est-il normal d'être déçu si on se prépare à devenir père d'une petite fille et que bah, c'est un garçon qui arrive, Benoît Le Goédec?
Oui, je pense que ça peut être normal parce que dans
c'est une des questions que vous posez dans votre livre.
Oui, oui, parce que dans le temps de la grossesse, il y a toujours un moment où on imagine le père ou la mère que l'on sera et on interprète et on fait déjà plein de projets avec. Donc, et puis après, ça devient de plus en plus rare que la majorité des gens vivent cette éventuelle déception par l'échographie, puisque la plupart demandent à connaître le sexe de l'enfant, ce qui genrit déjà quelque chose avant qu'il soit dans leurs bras. Et puis après, la rencontre fait beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cette déception et qu'il y a le regard posé dans l'enfant, il devient ce qu'il est. Et beaucoup s'en accommodent bien.
Lionel Paillès, elle est naturelle cette déception ?
Alors, je vais vous parler de mon histoire personnelle parce que c'était vraiment mon cas. Moi, je rêvais d'avoir deux filles, donc j'ai une fille aînée et quand mon petit garçon est arrivé, j'ai exprimé ma déception.
Comment ?
Eh ben, on est sorti de là. Alors, ma femme m'a un peu m'a tendu la main en me disant tu es déçu, non ? Et je lui ai dit oui, je suis déçu. Et vraiment, j'ai eu du mal à construire ma relation. Ça a été compliqué jusqu'à une consultation en fait avec une psychologue. Qui m'a dit parlez à votre fils et dites que vous êtes très fier du garçon qu'il est et que évidemment ça a interrogé mon histoire personnelle et ma relation avec mon propre père et j'ai parlé à mon fils qui avait à peine 2 ans hein, et je lui disais je suis fier du garçon que tu es et tu me réconcilies avec l'image de la masculinité que j'avais et ensuite ça s'est très très bien passé mais c'est vrai que ça a été une déception, on peut le dire. Oui.
Aurélia Schneider.
Moi, je trouve que ce qui est très important là-dedans, c'est d'exprimer son émotion. Mmh. Surtout de ne pas garder pour soi. Il faut faire circuler, même si c'est difficile, même si ça vous a demandé un effort. C'était un magnifique conseil et vous l'avez suivi. Vous avez vraiment bien fait.
Bonjour Nicolas, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Paris. Alors vous n'avez pas été déçu puisque vous êtes le père de jumeaux, un garçon et une fille qui ont bientôt 1 an. Comment avez-vous vécu le fait de devenir père de jumeaux ?
Très bien, hein, j'étais même ravi. En fait, j'avais déjà 42 ans au moment où ils sont arrivés, donc l'envie de paternité chez moi était très claire. Mm-hmm. Et puis, le fait que ce soit des jumeaux, évidemment, ça a amplifié tout le caractère spécial de l'événement. Donc, j'étais vraiment sur un nuage, un garçon et une fille, je pouvais pas rêver de mieux.
Comment se sont déroulés les 9 mois de grossesse, de votre point de vue ? Comment avez-vous accompagné votre compagne ?
Alors ma compagne, c'était sa deuxième grossesse parce qu'elle avait déjà une fille de 7 ans à l'époque. Je dirais que ça s'est passé sereinement. Moi, il y a une impatience une impatience saine, on va dire, qui a grandi au fil de la grossesse et une excitation de pouvoir faire leur connaissance et voilà. Donc c'est très très bien passé. En fait.
À quel moment vous êtes-vous senti père ?
Alors pour moi, c'est un processus qui a été très graduel. Il y a eu 3 étapes décisives. La première, c'est quand j'ai vu à la première échographie les 2 petits ronds voilà, qui représentaient les 2 enfants. La deuxième, c'est quand ils sont nés, évidemment, c'est un moment très fort. Et puis la troisième, c'est quand ils ont commencé à exprimer de l'attachement envers moi. Mmh. Et là, ça a été évidemment bouleversant.
Comment avez-vous trouvé votre place à la naissance ?
Assez simplement en fait. Quand on a des jumeaux, c'est assez immédiat. Dès la première nuit, j'étais là, il faut aider, c'est beaucoup de travail. Il fallait vraiment que ma compagne et moi devienne une équipe. Donc il y avait une somme de travail assez conséquente. D'ailleurs, je pense personnellement que c'était plus facile finalement de trouver ma place avec des jumeaux que s'il n'y en avait eu qu'un.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a plus de travail et donc la mère, on va dire, elle a vraiment besoin de quelqu'un, du papa aussi.
Voilà. Le regard de Thibaut de Saint-Maurice, père de jumeaux.
Pareil, mais un truc simple, hein, c'est que, par exemple, quand on allait des jumeaux, une fois que le premier est placé, on peut pas placer le deuxième tout seul. Ou alors, il faut vraiment beaucoup de technique. Et donc, c'est génial parce que, par exemple, on peut participer à ça. Alors que c'est vrai que pour le premier, qui était tout seul, on peut avoir l'impression parfois d'une sorte de citadelle entre la mère et son premier enfant. Avec les jumeaux, ce qui est vrai que c'est super, c'est que on est tout de suite, entre guillemets, non seulement utile, mais en plus à la fois paternant et maternant, quoi, avec les enfants.
Merci beaucoup, Nicolas. Belle vie avec vos jumeaux. Le regard du sage-femme Benoît Le Goédec sur ce qui vient d'être dit.
Je trouve ça intéressant parce que ça montre effectivement que le fait d'avoir besoin de l'aide et de ne pas pouvoir faire autrement permet d'entrer en relation. Alors que c'est vrai qu'il y a aussi pour la mère un moment souvent d'accueil et puis un moment de réalisation. Et puis, dans l'allaitement, encore quelque chose qui se poursuit de cette dualité qu'ils avaient, où l'homme doit aussi trouver des temps et de la place, et quand il est bouleversé lui-même, ben, il sait pas quoi faire et il sait pas comment des fois entrer. Là, ils ont pas eu le choix. Et il décrit très bien qu'il s'est rendu compte et que, bah, qu'il se passait des choses, en fait.
Oui, alors les mères veulent bien faire. Ça, c'est une grosse préoccupation. Et je crois qu'avec des jumeaux, on ne se pose plus la question de bien faire. On se pose la question de faire. Et là, le père arrive dans toute sa splendeur.
Bonjour, Michael. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Nous écoutons votre témoignage, Michael.
Eh bien, écoutez, y a beaucoup de choses à en dire. Hein. Moi, personnellement, la naissance de mon premier enfant, j'ai senti un poids sur mes épaules, mais au sens premier du terme, et ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Tellement que je me suis dit, c'est peut-être ça d'être père. Il va falloir vivre avec ça tout le temps, quoi. Heureusement... c'est pas ça, et c'est passé progressivement, mais je vous dis, ça a peut-être duré pendant 3 mois. Je pense que c'est passé, j'aurais été voir mon ostéopathe, il m'aurait dit, vous êtes toute tendue, j'ai pas fait la démarche, c'est passé tout seul, et je pense que c'est se confronter à la réalité. J'entendais, oui, on cherche à bien faire, on cherche à faire aussi, et puis en faisant, on se confronte à la réalité et on dépasse le fantasme, toutes les projections, tout ce qu'on imaginait de la paternité, d'avoir la responsabilité d'un petit être comme ça, ça devient naturel, ça se fait. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que dans mon cas, j'ai trouvé significatif, dans notre expérience, ça a été que ma compagne le terme m'échappe.
À l'allaiter.
À allaiter nos deux enfants pendant 1 an. Alors il y avait un côté pratique qui était que je n'avais pas à me lever la nuit, clairement, parce qu'il n'y avait pas de biberon à préparer et je ne pouvais pas donner le sein. Donc ça, c'était le côté pratique. Mais le côté
pratique pour vous,
c'est que je ne pouvais pas. Il y avait une place en fait que je ne pouvais pas prendre. La survie alimentaire de l'enfant dépendait entièrement de ma compagne. Et au bout d'un an, quand l'allaitement s'arrêtait, là il y avait une place à prendre en fait qui était vacante et il fallait redistribuer les cartes un petit peu de la relation à trois. Et ça, c'était une deuxième naissance, d'autres responsabilités qui arrivaient en plus dans la paternité et qui n'avaient pas été là pendant la grossesse, que vit déjà la mère et que ne vit pas pareillement le père, et pendant toute cette période d'allaitement.
Lionel Payès.
Ça, c'est vraiment une des grandes problématiques des futurs papas. C'est souvent dans le fantasme de celui qui va devenir père, il y a l'acte nourricier. C'est-à-dire, si je ne nourris pas mon enfant, je ne trouverai pas ma place et je ne vais pas créer ma relation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont perturbés par ça. Mais il y a une multitude de petits actes quotidiens qui permettent de nouer cette relation. Donc, si la maman allait son bébé, on peut donner le bain, on peut le changer, on peut trouver ces moments à soi pour créer cette relation. Mais souvent, c'est un vrai questionnement des futurs pères. C'est si ma compagne allait, comment je vais trouver ma place que j'ai déjà du mal à trouver depuis la naissance.
Merci beaucoup, Michael, d'être intervenu. Certains pères, futurs pères, vivent une grossesse symbolique que l'on appelle couvade, Benoît Le Goédec. D'après votre expérience, c'est très fréquent ou pas?
Les vraies couvades avec beaucoup de symptômes associés, non. Mais ce qu'on va appeler couvades assez facilement maintenant, c'est-à-dire une prise de poids, quelques douleurs, des angoisses, une matérialisation un petit peu comme ça dans le corps de choses, oui, on en voit assez régulièrement.
Allez, il est temps de retrouver l'ordonnance philosophique de Thibault de Saint-Maurice. Que trouve-t-on dans votre ordonnance, justement, ce matin? Je suis en train de rechercher votre texte.
C'est ça. Écoutez, Ali, on vient de le dire, les premiers pas de papa sont des pas difficiles. Mm-hmm. Là où la maman a eu plusieurs mois pour commencer de faire l'expérience de sa maternité, pour les pères, en quelques minutes, tout change. Vous savez, c'est ces quelques minutes qu'on a décrit. On leur colle un petit être braillard et tout sanguinolent dans les bras. On leur dit « Félicitations, monsieur, c'est le vôtre ». Voilà, et là, tout commence. Alors, ça commence avec donc cette aventure de paternité. Aventure parce que, en fait, au départ, tout dépend d'une croyance. de la croyance que l'on est bien le père. Et tout le problème donc, c'est que là où la maternité se construit à partir d'un fait, celui de la naissance, la paternité, elle, elle doit s'inventer à partir d'une présomption. Et c'est cette présomption qui complique tout. Parce que pour en réduire l'incertitude, hein, historiquement, les hommes ont d'abord construit la paternité comme un pouvoir de décision et de domination. Et ça s'appelle immédiatement le patriarcat. Puisque les hommes ne peuvent pas être sûrs que leurs enfants sont bien leurs enfants, et ben on construit une société dans laquelle les femmes sont contrôlées et dominées, afin que cette surveillance généralisée compense l'incertitude de la conception.
Mais comment purifie-t-on la paternité du patriarcat ?
Eh bien, elle lit par un traitement simple, précis, comme une petite incision chirurgicale, en distinguant la certitude et la conviction pour pouvoir repenser la paternité comme une conviction et surtout pas donc comme une simple certitude. Donc distinguons, la certitude elle est pleine d'assurance, elle repose, vous savez, sur cette force de l'évidence et à ce titre elle ne se remet jamais en question. Les gens pleins de certitude sont comme cela, ils croient déjà tout savoir et ne voient donc pas l'intérêt de réfléchir à quoi que ce soit. Pour eux c'est le réel qui doit s'adapter à leur certitude. Au contraire, une conviction, elle est instruite d'elle-même. Avoir une conviction, c'est le résultat d'un long processus de délibération et de décision. Une conviction, ça se nourrit, ça s'entretient, ça s'ajuste et finalement, ça nous transforme nous-mêmes dans notre rapport au réel. Alors vous me voyez venir, hein, la paternité patriarcale, c'est une paternité pleine de certitudes, toute imbue d'un pouvoir inquiet au fond de ne reposer que sur une croyance ou sur une déclaration. De l'autre côté, la paternité libérée du patriarcat, c'est, je crois, une paternité de conviction qui s'invente peu à peu comme un désir d'attachement, comme la reconnaissance d'un lien et comme l'acceptation d'un ensemble de devoirs. Au fond, comme une sorte d'acte de foi libérateur et fondateur. Voilà, la paternité, on l'apprend, c'est un apprentissage, apprentissage d'une fonction plutôt que l'exercice d'un pouvoir, et puis l'apprentissage de compétences, plus évidemment que le développement de qualités masculines qui seraient naturelles. Et c'est ça qui est génial au fond, hein, parce qu'en libérant la paternité de ses certitudes, on la fragilise pas, mais au contraire on la renforce, parce qu'on la libère de la tentation d'une domination patriarcale. Voilà, en quelques minutes, tout change, mais il faudra bien quelques années pour prendre la mesure de ce changement.
Commentaire autour de la table, Benoît Le Goédec.
Moi, je trouve ça très intéressant, la conviction et la certitude. Je dis toujours aux parents, hommes et femmes, que l'éthique de la parentalité, c'est une éthique de l'imprévisible et de l'incertitude, justement. Et c'est comme ça qu'on accueille mieux soi et l'autre, puisque rien ne nous est complètement connu à l'avance, ni la date d'accouchement, ni tout ce qui va se passer avec l'enfant, ni la façon dont on le vivra.
L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Devenir père, c'est notre thème ce matin. N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000.
À l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée, le temps s'est envolé, a cessé de couler, les jours passent comme de l'eau, à mes pieds immobiles, de grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante, la nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour maître dit respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville et souvenirs. En vain chante ce train et je sais où il mène, dans la gare désertée, chante un autre avenir, l'amour suit. Maître a dit rester, les eaux le coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses. C'est là que tu te poses, ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis. Et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver. Donc la retrouver, va la retrouver, va la retrouver.
Jean-Louis Aubert, interprété Où je vis.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h42, devenir père, c'est notre thème ce matin. Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Allez, une série de questions pratiques destinées à Lionel Paillès et Benoît Le Goédec, auteur de Papa débutant. Benoît Le Goédec, je rappelle que vous êtes sage-femme. Pourquoi est-il important que le père participe aux 3 échographies de contrôle? Je rappelle qu'il y en a 3, l'échographie de datation, l'échographie de morphologique et l'échographie de croissance fœtale. Pourquoi est-ce que c'est important?
Je ne sais pas si c'est faux qu'il participe obligatoirement, mais en tout cas, c'est un des rites initiatiques pour le père. Il y vient beaucoup et il posera même une journée pour ça. Parce que il a une visualisation, une matérialisation de l'enfant à naître, surtout au début où il ne le ressent pas encore dans ses mains par le toucher. Et ça l'aide à concrétiser un petit peu et puis peut-être à commencer son chemin en fait vers l'accueil de l'enfant.
Au cours de la grossesse se pose la question du prénom. Que faire quand on n'est pas du tout d'accord? Comment peut-on procéder pour éviter les conflits au maximum, Lionel Paillès?
Oui, je crois que maintenant on fait des listes qui sont épinglées sur le frigidaire, le réfrigérateur, et puis je crois pas que ça soit aujourd'hui aussi conflictuel que ça. D'ailleurs,
Je connais des cas.
Il faudrait regarder les ventes de livres sur les prénoms. Je suis pas sûr que ça soit aussi autant des cartons qu'auparavant. Mais à part dire que voilà, il faut dans les mois qui précèdent se faire chacun sa liste et puis en discuter.
Et ne pas trop en parler peut-être autour de soi.
Faire attention à pas trop en parler parce que tous les avis ils vont venir et après on est blessé parfois quand on est content d'avoir choisi un prénom. Oh, j'aimerais mieux celui-là. Oh, non, mais pourquoi pas celui-là? Après, je crois que des fois faut quand même se mettre au maximum d'accord sur quelque, et puis pourquoi pas s'autoriser, comme on a 2-3 jours des fois, comme d'autres cultures, la rencontre au bébé pour effectivement savoir ce qui lui correspondrait le mieux.
Aurélia Schneider.
Oui, en fait, moi, mes patientes anxieuses, je leur demande quand même de savoir à peu près ce qu'elles vont donner comme prénom. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a 2 prénoms en lice et on va avoir l'idée que le bébé a la tête du prénom X ou Y. Hein. C'est très drôle. Ouais,
c'est d'ailleurs l'objet des travaux de la sociologue Anne-Laure Cellier sur le fait qu'on a souvent la tête de son prénom. Thomas nous dit qu'il n'ose pas dire à sa femme qu'il faut qu'elle arrête de fumer alors qu'elle est enceinte de 3 mois. Comment peut-il procéder, Benoît Le Goédec? Parce que on le sait, il y a des conséquences du tabagisme de la mère ou du père. Sur le fœtus.
C'est toujours difficile parce que l'homme, il doit faire confiance en sa femme, il se veut être protecteur de son enfant à venir et en même temps, c'est pas lui qui porte. Alors, il faut qu'il arrive à en parler tout simplement, en respectant un petit peu, en essayant de comprendre pourquoi elle a du mal. Et puis peut-être, puisque c'est pas forcément son rôle de l'aider à arrêter, mais de la soutenir par contre, de l'orienter vers des sages-femmes tabacologues ou des consultations spécialisées qui vont, là, lui apporter autre chose et le libérer de cette difficulté.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, je me demande si ce qu'on dit sur la paternité en parlant des hommes, est-ce que vous constatez chacun, je ne sais pas, dans votre expérience, une différence quand le père est une femme
C'est-à-dire
Dans les couples, par exemple, homoparentaux, dans les couples de femmes qui accueillent un enfant.
Alors, dans la fonction d'accompagnement du conjoint, non. Je pense qu'il y a un vrai accompagnement de l'un et de l'autre, que ce soit un homme ou une femme qui passe par l'amour qu'il se porte. Dans l'accueil de l'enfant, je ne sais pas. Je crois que ce qui est important pour l'enfant dans le couple parental, c'est la différence de l'un et l'autre. Et on peut, moi, je suis un homme et un père très normé féminin dans les normes du genre. N'empêche que je suis différent de la mère parce que certes, je suis un homme, mais je ferai mes gestes maternants différemment. Dans deux femmes ou dans deux hommes, on va retrouver ça. Ce qui est structurant, c'est la différence que chacun va apporter à l'enfant. Et là, il va pouvoir trouver ce qu'il recherche dans l'un et dans l'autre parent. Alors évidemment, ça restera deux femmes. Et il y aura d'autres interrogations venues par l'extérieur qui construiront. Mais je note pas de grandes différences.
Alors nous recevons beaucoup de questions sur l'aptonomie. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est l'aptonomie ?
L'aptonomie a été définie comme la science de l'affectivité. Alors moi, j'ai du mal à associer les deux mots. Mais c'est en fait toute une approche dans une relation triangulaire, les deux parents et le fœtus, par le biais d'un toucher de rencontre, d'un toucher sensoriel particulier qui
du
va
ventre.
Aller du ventre, au travers le ventre, un toucher du fœtus, pour développer un petit peu cette sécurité affective avant même de l'avoir dans les bras.
Et le père
Et le père est forcément invité, puisque ça se joue dans la relation triangulaire par le toucher.
Lionel
Et ça
Payes.
Plaît beaucoup pour ça.
Alors, l'aptonomie, je trouve que c'est intéressant. Pendant des années, on a eu une littérature sur le nouveau père. Le nouveau père, c'était le père expert, le père parfait, celui qui faisait tout, qui allait à tous les rendez-vous, qui assistait aux échographies, etc. Et moi, je trouve que c'était une image un peu culpabilisatrice pour le père qui essayait justement de se dire « Est-ce que je fais tout bien ?» Et je trouve que l'aptonomie, dans certains milieux, ça a pris cette place-là. C'est-à-dire qu'on se disait « Si je ne fais pas de séance d'aptonomie, je ne suis pas un bon père. Je ne fais pas tout ce qu'il faut faire. » Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de rassurer les gens et de leur dire l'aptonomie, moi je trouve que c'est extraordinaire comme expérience, mais on n'est pas obligé de faire l'aptonomie. Ça c'est important aussi dans la construction de sa paternité, de dire qu'est-ce que c'est mon projet de paternité à moi. Et peut-être que ça sera de passer par l'aptonomie, ou plus tard quand le bébé naît par les bébés nageurs, mais on n'est pas obligé de faire ça non plus.
Ça se pratique où l'aptonomie ?
Ça se pratique avec des praticiens formés, qu'ils soient sages-femmes, médecins, psychologues, qui sont formés par le Centre national d'aptonomie.
Bonjour Anessa, bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour, nous écoutons votre témoignage.
Écoutez, moi ça a été, j'ai un homme un peu très masculin, très sûr de lui, et qui m'a suivi pour les échographies, mais pas du tout pour tout le travail justement de respiration, enfin tous les ateliers que j'ai pu faire avant, ça ne le concernait pas du tout. Et à l'accouchement, en fait, j'avais un gros bébé et j'étais entourée de femmes, donc c'était vraiment pour moi. Ça a duré 12 heures de travail. Et il était là, mais il savait pas trop. Enfin voilà, il m'accompagnait, il était adorable, mais bon, il s'ennuyait un peu, il tournait un peu en rond, il savait pas trop quoi faire, il sentait pas trop concerné. Et j'ai un accouchement difficile, il y a une heure de poussée, et la sage-femme et les infirmières ont été géniales. Elles lui ont demandé de m'aider parce que moi j'avais entendu le mot césarienne, donc ça m'a complètement angoissée, je voulais accoucher normalement. Et en fait elles lui ont demandé de pousser le bébé, de placer le bébé pour qu'il puisse sortir. Et du coup il tenait mon ventre, il a eu un rapport très physique à l'accouchement. Il me parlait avec sa petite voix. C'est lui en fait qui a pris le relais de la sage-femme pour m'aider à coucher. Donc c'était, j'entendais sa voix dans mon oreille. J'ai pu fermer les yeux et vraiment me concentrer sur cet accouchement qui était difficile. C'était un bébé de 4,5 kg. C'était un moment magique dont j'ai vraiment pu. Voilà, j'ai l'impression d'avoir accouché dans le calme total en entendant juste sa voix. Et du coup, il a été vraiment actif dans cet accouchement. Il s'est occupé du bébé tout de suite. Donc on s'est occupé de moi. Il a pu vraiment devenir père à ce moment-là. Et quand on est rentré à la maison, moi j'étais couchée pendant 3 semaines parce que ça a été, il y a eu quand même des retours de couche un peu compliqués. Et je le voyais, il tournait sur lui-même, il savait pas trop, c'était un peu la panique, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais il a dû prendre tout ça en main. Et avec sa maman, j'avoue que sa maman était là pour l'aider. Et c'était génial. Et en fait, du coup, il est devenu vraiment, je l'ai vu perdre, parce que j'ai dû le laisser faire pendant 3 semaines. Et il a pris le relais, c'est lui qui donnait le bain, qui s'occupait vraiment du bébé. Et je remercie vraiment cette sage-femme qui a été absolument géniale de laisser la place, de lui donner de la place pour qu'il puisse être actif dans cet accouchement. Mmh. Et comme j'étais pas très bien, donc on a fait venir un sage-femme à la maison. Donc comme il a eu un homme qui a pris le bébé, qui lui a montré comment le pas s'inquiéter en le touchant, voilà. Et du coup, vraiment, elle manipulait parce qu'il était un peu, comme il est un peu grand, costaud, il était là, bon, je vais l'abîmer, je vais le casser. Puis le sage-femme est absolument génial. Il a dit, mais regardez ce bébé, il l'a attrapé par les pieds. Il lui dit, mais prenez-le comme ça, c'est pas fragile, voilà. Donc c'est d'avoir eu un homme après à la maison, ça a été génial, quoi. Parce que du coup, ça l'a. Et en fait, il s'occupait du bébé, il lui a fait tous les massages en sortant du bain. Donc c'était le rituel. Puisqu'il, donc voilà, il a massé ma fille pendant très longtemps après le bain, il s'en est vraiment occupé. Et je pense que, voilà, ça a été vraiment le déclencheur, et c'est un accouchement magnifique pour ça, d'avoir ce père très actif. Et je sais que il n'y a pas eu de césarienne, il n'y a pas eu de complications, parce que vraiment, j'ai pu me concentrer sur ce que j'avais à faire.
Et truculent.
Ça a été très long, mais.
Truculent témoignage de Vanessa Benoît Le Goédec. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Ça montre bien qu'il y a des ressources insoupçonnées dans les acteurs qui sont là et que l'homme particulièrement peut recentrer, reconcentrer et soutenir.
Merci beaucoup à Vanessa d'avoir témoigné. Vous pouvez continuer à témoigner au 01 45 24 7000. Métronomie interprétée Walking in the Dark.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Il est 10h54, encore une poignée de minutes pour nous consacrer à cette émission consacrée au fait de devenir père. J'ai peur de ne pas me sentir tout à fait concerné par un nouveau-né. Que faire, peuvent se demander certains pères. Aurélia Schneider, ce désinvestissement relatif, est-ce que ça peut accroître la charge mentale des mères?
Ah bah oui, parce que s'il faut dire au père ce qu'il a à faire, c'est beaucoup plus compliqué quand on est déjà au fond du seau. Là, Vanessa racontait quand même un accouchement un peu traumatique. Heureusement, son mari, il s'y est collé et en fait, il a eu du temps à la maison apparemment, et il a tout fait tout seul, sans qu'elle ait besoin de dire. Elle a récupéré pendant ce temps-là. C'est absolument indispensable. Si on est manager en chef, on va pas pouvoir se reposer, on va pas pouvoir débrancher, on va pas pouvoir récupérer.
Certains pères nous demandent si c'est mal de ne pas avoir voulu assister à l'accouchement, Benoît Le Goédec.
Non, non, je crois qu'il faut vraiment les rassurer là-dessus. Chacun le vit à sa manière. Et il faut rassurer les femmes aussi, que nous, on sera plus là si l'homme ne l'est pas. On peut vivre la naissance dans le même espace-temps que la femme, mais il faut quand même s'arrêter de faire toute autre chose, c'est-à-dire l'accompagner, venir à la maternité, et attendre dans la salle d'attente, faire les 100 pas, attendre avec quelqu'un d'autre. Parce que on vit, nous, intérieurement, tout ce qui se passe, les hommes, et assister, être présent autour de la femme permet peut-être d'aider à cela, mais pour d'autres, non, il va falloir que ça continue à se vivre.
Pierre nous demande, il nous dit, voilà, j'ai peur de ne plus désirer ma femme après avoir assisté à l'accouchement.
Oui, c'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup en fait, mais c'est une peur qui revient, comme toutes les questions sur la sexualité pendant la grossesse, qui est quand même très modifiée. Après, assister à l'accouchement, c'est pas regarder, c'est pas être à distance en portant juste les yeux, c'est accompagner, c'est être dans la relation. Et quand on est dans la relation, on n'est pas obligé non plus de voir tout ce qui est autour de du sexe, de la vulve, et on accompagne l'autre dans l'événement. Et là, ça pose peu de difficultés.
Lionel Paillès.
Et puis là encore, il y a tout un imaginaire masculin qui pense que une salle de naissance, c'est le bruit et la fureur, et que ça va être extrêmement traumatisant, et notamment pour sa future sexualité. En fait, c'est d'abord extrêmement calme, une salle de naissance, globalement, quand les choses se passent bien, et c'est généralement le cas. Et puis en plus, ensuite, on a la liberté de se positionner où on veut. Donc finalement, l'homme, il a tout à fait le choix de voir ou de ne pas voir. Et puis encore une fois, quand on est acteur de la naissance, et d'une manière ou d'une autre, quand on est le futur père, on est acteur de cette naissance, c'est pas comme si on était spectateur de quelque chose qui nous concernait pas du tout. Là, ça pourrait être très traumatisant. Là, c'est pas le cas. On est soi-même acteur, donc le traumatisme, il est rare quand même.
Bonjour Pierrick, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous allez devenir papa. Comment ça se passe là depuis 3 mois?
Eh ben, ça se passe plutôt bien pour ma compagne.
Et pour vous?
Et pour moi, bah voilà, c'était l'objet de mon appel pour partager le fait qu'au niveau de la charge mentale de déjà avant. Déjà, il y a cette période des 3 mois qui peut être un petit peu longue parce qu'on sait, voilà, on espère que le fœtus va tenir, et puis ça ramène à plein de questions sur son rapport à la paternité, à son propre père. Et moi, j'ai des symptômes, voilà, je vais avoir énormément d'angoisse, des vertiges, des nausées, voilà, des choses comme ça. Donc, merci pour votre émission d'ailleurs, qui fait beaucoup de bien.
Merci. Et vous éprouvez, voilà, vous éprouvez une charge mentale, vous éprouvez une charge mentale, c'est ça, Pierrick?
Oui, voilà, ça ramène à beaucoup de choses de soi, de sa propre enfance, et puis de son rapport notamment à ses parents. Alors c'est peut-être très personnel, mais en tout cas ça remue énormément de choses.
Aurélia Schneider.
Oui, c'est plutôt un questionnement global sur toute l'histoire finalement qui arrive à Pierrick et à cette poursuite de la famille finalement. Hein. La charge mentale, c'est plutôt sur le mode je vais devoir gérer des choses qui vont peut-être me dépasser, mais qui vont être des actions à mener conjointement. Là, vous décrivez quelque chose de plus psy, on va dire.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Pierrick pour...
Mais on peut dire que l'accompagnement va être quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait des groupes de parole, de pairs, on parlait d'autonomie, et je pense qu'il faut se mobiliser pour être acteur.
Oui, je pense qu'il faut qu'il vienne nous voir comme du soutien, et on verra s'il a besoin d'une expertise plus grande. Mais tous ces symptômes, c'est... Enfin, moi, je vois beaucoup d'hommes dans ces symptômes-là parce que ils sont effectivement bouleversés de toute leur histoire antérieure, mais parce qu'ils sont seuls à le vivre, et il faut bien qu'on s'occupe d'eux et que ça sorte par quelque part. Qu'ils viennent en entretien prénatal précoce, qu'ils osent saisir la rencontre à un professionnel qui lui convient, et ça l'aidera après.
Merci beaucoup, hein, Pierrick, d'être intervenu. Merci Lionel Paillès et Benoît Le Goédec, papa
à vous.
Débutant et publié chez First. Bah, vous allez revenir, hein, parce que on va consacrer d'autres émissions à la paternité aux premiers mois et aux premières années. Et merci également Aurélia Schneider. Merci. La charge mentale des femmes est publiée chez, rappelez-moi l'éditeur,
Larousse.
Merci. Demain, petit bêtisier du numérique. Quand nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes deviennent cons, hein, pour reprendre le titre d'un de nos invités, Cyprien Sini. Quand le numérique nous complique la vie quotidienne. Racontez-nous vos expériences au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Kevin Pelot et Élise Christophe.